On se plonge aujourd'hui dans une exploration des plus savoureuses, la gastronomie du Rouergue, en plein cœur de l'Aveyron.
Bonjour, un sujet qui met l'eau à la bouche. Ah ouais, et pour nous guider, on a une source vraiment particulière. Le bulletin spécial numéro 70 du Carto Club Aveyronnais, une publication de Guy Mazard. Oui, ce qui est formidable avec cette source, c'est qu'elle utilise des cartes postales anciennes.
C'est ça. On ne va pas faire un guide complet, mais plutôt piocher dans les articles pour en sortir quelques histoires qui en disent long.
Et les cartes postales, ça donne un aperçu visuel, une fenêtre sur le passé. On ne parle pas juste de recettes, on voit les lieux, les gens. Ça rend l'histoire beaucoup plus vivante.
Absolument. D'ailleurs, pour donner le ton, je voudrais citer l'introduction de Gilbert Rigaud. Il rappelle que la gastronomie, ce n'est pas seulement l'art de régler l'estomac.
Non, bien sûr que non. C'est bien plus que ça.
C'est une part essentielle de l'identité d'une région. Un mélange de savoir-faire, de produits, d'histoire. Alors, notre mission, ça va être de décortiquer cette identité à travers trois exemples forts.
D'accord. Et lesquels ?
Un produit que le monde entier connaît, un plat du dimanche devenu une marque, et un hôtel qui a pratiquement inventé le tourisme gastronomique local.
C'est une excellente approche. Parce que la gastronomie rouergate, c'est précisément cette alchimie. D'un côté, on a des traditions presque immuables, comme les tripoux ou l'aligot.
Les recettes de grand-mère.
Notre premier pilier, le roquefort. Dans son article, Pierre Costecalde le décrit comme une « industrie pastorale qui ne pourrait exister nulle part ailleurs ». C'est une affirmation assez forte, ça.
Oui, et il a raison. Qu'est-ce qui rend ce petit coin si unique ?
En fait, on touche là au génie du lieu.
C'est-à-dire ?
Tout part d'un cataclysme géologique. L'effondrement d'une partie du plateau du Combaloo il y a des centaines de milliers d'années.
Cet éboulement a créé, sous le village de Roquefort-sur-Soulzon, tout un dédale de caves naturelles.
D'accord. La base, c'est la géologie.
Exactement. Mais le vrai secret, le cœur du réacteur, ce sont ce qu'on appelle les fleurines.
Les fleurines. On dirait un nom de fée. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Ce sont des fissures dans la roche. Elles parcourent tous les boulis. Et en fait, elles fonctionnent comme un système de climatisation naturelle.
Et parfaite. Ah oui !
Elles aspirent l'air frais et humide des profondeurs et le font circuler en permanence dans les caves. Résultat ?
Une température constante, autour de 10 degrés, et une humidité quasi saturée toute l'année. Les conditions idéales pour l'affinage.
Les conditions parfaites. C'est dans cette atmosphère que le fameux champignon, le Penicillium roqueforti, se développe et donne au fromage ses marbrures et son goût si puissant.
C'est fou de se dire qu'un accident géologique est à l'origine d'un tel trésor. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire, non ? La nature fournit le décor, mais il faut l'humain derrière.
C'est exactement ça. L'ingéniosité humaine a été de comprendre et d'exploiter ce phénomène unique. Le savoir-faire, c'est de fabriquer ce fromage exclusivement avec du lait cru de brebis, de la race Lacone, puis de le laisser s'affiner là, patiemment.
Et c'est ce mariage qui a été reconnu très tôt.
Très tôt. C'est la reconnaissance de cette alchimie entre un terroir et une pratique qui a fait du Roquefort le tout premier fromage français à obtenir une appellation d'origine contrôlée.
En quelle année ?
En 1925. On protégeait non seulement une recette, mais un lieu, un écosystème entier.
Et ce goût est tellement particulier qu'il peut dérouter. D'ailleurs, Pierre Costecalde raconte une anecdote qui m'a fait sourire.
Ah oui, je vois de laquelle vous parlez.
Une famille du nord de la France qui reçoit un roquefort en cadeau d'amis aveyronnais et qui le jette à la poubelle, persuadée qu'il était tout moisi.
C'est le parfait exemple du choc des cultures culinaires. Mais ça montre bien que le goût, ça s'éduque, ce qui est une simple moisissure pour certains et le signe d'un affinage noble pour d'autres.
Toute la différence entre le pourri et le mûri.
Voilà, c'est exactement ça.
En partant de ce produit brut, presque sauvage, ça donne envie de voir comment le Rouergue a transformé ses plats cuisinés. Et ça nous amène directement à notre deuxième histoire, celle des tripoux et de la nocelloise.
Ah, les tripoux. Alors là, on change complètement d'univers. On quitte la géologie pour entrer dans la cuisine des fermes, le plat réconfortant par excellence.
Oui, l'article de Pierre Dumont nous plonge dans cette ambiance. Il décrit les tripoux comme le plat du dimanche matin dans le Ségala, préparé par les cuisinières avant de partir à la messe.
Le plat qui mijote pendant des heures.
C'était aussi le casse-croûte des jours de foire, surtout à Nocelles. Il y a cette image magnifique de la toupine.
Ce pou en terre, oui.
Les gens le déposaient chez le tripier le samedi soir pour le récupérer le lendemain matin, plein de tripoux qui avaient mijoté toute la nuit.
C'est l'incarnation de la cuisine de partage, hyper locale.
Et c'est là qu'histoire devient fascinante. comment on passe de cette toupine partagée entre voisins à un produit vendu dans les grandes brasseries parisiennes?
C'est la grande question. La réponse tient en deux mots. La famille Savy. Le tournant, c'est en 1966. Charles et Hélène Savy décident de participer au premier Grand Prix national du meilleur tripou. Et contre toute attente, ils gagnent. Le début d'une nouvelle ère. Mais j'imagine que ça a dû poser une question fondamentale. En passant à une production à grande échelle, est-ce qu'on ne risque pas de perdre l'âme du produit? Très intelligent. Ce prix national, c'était une validation. Il a certifié que leur recette, leur savoir-faire, était la référence.
Donc, avant même de grandir, ils avaient fait authentifier leur tradition.
Précisément. Du coup, en 1972, quand ils créent leur atelier, ils ne l'appellent pas « Tripouze Savy », mais « La Nocelloise ». Et ça, c'est un coup de génie marketing.
Ils ne vendent pas seulement leurs produits, ils vendent l'identité de leur village.
Tout à fait. Ils ont compris que ce que les gens achèteraient, ce n'était pas juste un plat de tripes. C'était une part de l'Aveyron, une garantie d'authenticité. Ils ont réussi à mettre en boîte, non pas la toupine, mais la recette et l'histoire qui allait avec.
Et c'est pour ça qu'on les retrouve au Bouillon Chartier à Paris.
Exactement. Ils ne vendent pas de la nostalgie. Ils vendent un emblème régional certifié. C'est une modernisation qui, paradoxalement, a permis de préserver et de diffuser la tradition.
C'est une formidable histoire entrepreneuriale. Et cette idée de vendre la région, de packager le terroir pour une clientèle plus large, ça crée une transition parfaite vers notre troisième pilier.
Ah oui, je vois où vous voulez en venir. La famille Savy l'a fait avec un plat, mais un homme l'avait fait pour toute une destination bien avant eux. Pierre-Louis Chevadel et son grand hôtel de Paris à Millau. Ah, Chevadel. Là, on est encore dans une autre dimension. On n'est plus seulement dans le produit, on est dans la création d'une expérience complète. L'article de son arrière-petit-fils, Jean-Pierre-Henri Azéma, le dépeint comme un véritable pionnier.
Son parcours est incroyable. Fils de cordonnier aveyronnais, il monte à Paris, il se forme à la dure dans les cuisines du prestigieux Café de la Paix, puis il revient au pays vers 1900, avec une ambition démesurée. Hein.
Créer à Millau un hôtel qui rivaliserait avec les établissements parisiens. Rien que ça.
Et ce qui est frappant, c'est à quel point il était en avance sur son temps. Il a compris avant tout le monde le pouvoir de l'image.
De la communication ? L'article nous apprend qu'il a fait éditer 6 cartes postales différentes de son hôtel.
Attendez, 6 cartes postales différentes, c'est énorme pour l'époque. Il ne se contentait pas de dire « venez chez moi », il créait déjà une image de marque. C'était une stratégie de communication incroyablement offensive. Et ces cartes, elles montraient qu'il ne visait pas n'importe qui. Il ciblait la nouvelle clientèle de l'aventure, les automobilistes.
Ah oui, c'est vrai. Sur les cartes, on voit des inscriptions impensables pour l'époque. Garage automobile, fosse d'entretien. Et même mécanicien à l'hôtel.
C'est ça. C'est comme si un hôtel aujourd'hui annonçait avoir sa propre station de recherche pour fusée spatiale. C'était un argument de vente absolu pour ces riches touristes. Donc il a compris que le service était la clé. Mais il ne s'est pas arrêté à la mécanique, si.
Non, sa vision était globale. Sur la façade, il fait apposer les plaques des grands clubs de l'époque. Touring Club de France, Cycliste Touring Club, même les clubs belges et anglais, j'ai lu.
Il pense déjà international.
Exactement. Et puis, il y a la promesse culinaire. Ses publicités mettent en avant les produits du terroir. Gibier, truites, écrevisses. Il offre à cette clientèle urbaine ce qu'elle vient chercher. Une cuisine locale raffinée.
Et le coup de maître?
Le coup de maître, c'est qu'il ne se contente pas de les loger et de les nourrir. Il organise des excursions à forfait dans les gorges du Tarn. Il vend une expérience clé en main.
Il ne vend plus des chambres, il vend la découverte d'une région. C'est un véritable visionnaire.
Il a inventé le package touristique avant l'heure.
Mais l'article se termine sur une note beaucoup plus sombre. Son histoire, elle ne finit pas bien.
Non, c'est un destin tragique. En 1914, au sommet de sa gloire, il vend son affaire à Millau pour acheter un palace de 100 chambres à Biarritz. Un projet pharaonique.
Et la guerre éclate.
La guerre éclate. Il est mobilisé, envoyé sur le front de l'Isère en Belgique. Il est gravement gazé. Il ne s'en remettra jamais vraiment et mourra en 1925 à seulement 49 ans.
Sa carrière météorique a été fauchée en plein vol par la grande histoire. C'est une fin brutale.
Ça nous rappelle que derrière ces grandes réussites, il y a des destins humains fragiles.
Si on prend un peu de recul, ces trois histoires, elles dessinent un portrait fascinant de la gastronomie du Rouergue. On a un don de la nature avec le Roquefort.
Sublimé par la tradition.
Une tradition populaire transformée en marque nationale avec la Nocelloise. et un entrepreneur de génie qui a su packager tout un terroir pour en faire une destination.
C'est une synthèse parfaite. Ces trois piliers montrent comment une culture gastronomique se construit et perdure. Et comme le note Gilbert Régourd, l'héritage est incroyablement vivant aujourd'hui.
Oui. Le bulletin cite les grands noms actuels.
Michel et Sébastien Brass, Cyril Lignac, Nicole Fagé-Galtier, le flambeau a été transmis et il brille toujours aussi fort.
La tradition n'est pas un musée, en fait. Elle continue d'évoluer.
Exactement. Et au fond, ce qui unit toutes ces histoires, de la toupine de tripou partagée au village, aux grandes tablées de l'hôtel de Chevaïdel, c'est l'idée de convivialité.
Le partage.
La bonne chair, comme on dit, n'a de sens que si elle est partagée. La gastronomie, c'est peut-être avant tout un lien. Un lien entre le passé et le présent, et surtout un lien entre les gens.
C'est une très belle conclusion. Pour laisser une dernière pensée à méditer, l'un des articles du bulletin liste un top 10 des spécialités aveyronnaises, de l'aligot au gâteau à la broche. Et ça soulève une question intéressante.
Laquelle ?
S'il fallait choisir un seul plat, un seul produit, pour incarner l'âme culinaire de toute une région, lequel ce serait ? Et plus important encore, qu'est-ce que ce choix révélerait sur la manière dont la nourriture tisse des liens entre notre histoire personnelle, l'histoire collective et notre sentiment d'appartenance à un lieu ?